France Inter. .fr.
Bonjour, je reçois le chanteur, guitariste, pianiste et auteur-compositeur Stéphane Escher aujourd'hui. Artiste singulier dont les goûts vont d'un intérêt certain pour la musique électronique à la musique médiévale et acoustique, il aime les expériences, les recherches, les compositions avant-gardistes qui flirtent avec la musique industrielle. Fils d'un violoniste yéniche et issu d'un milieu punk zurichois des années 80, Stéphane Escher est curieux. Il aime d'abord la vidéo, compose très jeune sur ordinateur, avec un premier succès au début des années 80 qui le fait émerger en Suisse et en Allemagne. Mais c'est dans les années 90, avec l'album Engelberg et le titre fameux Déjeuner en paix, que Stéphane Escher touche le plus grand public. Homme intègre et aventureux, il poursuit sa quête autour du son et des sonorités, s'essayant à tout. D'une collaboration avec l'ensemble vocal corse Imouvrini à d'autres, avec par exemple Benjamin Biolay ou encore Johnny Hallyday, il compose la bande originale du film d'Antoine Decaune, Monsieur N. Il coécrit avec Philippe Djian, ou jouait récemment seul en scène, entouré d'instruments automatisés, bardés d'engrenages, de roues dentées et de pistons. Bonjour Stéphane Escher.
Bonjour, bonjour.
C'est vrai que ça fait un éventail très large.
Je suis vieux.
Vous êtes vieux. Oui, bah, c'est élargir encore parce qu'on va parler de quelqu'un que vous avez connu.
Je reçois un prix chez vous.
Rien du tout.
Ah mince.
En tout cas, vous serez au Festival des Nuits de Fourvière la semaine prochaine pour rendre hommage à quelqu'un qui aurait eu 100 ans cette année. Donc vous êtes vraiment vieux, Stéphane Escher. Moondog. Le Viking de la 6e avenue que vous avez rencontré, connu un peu ?
Pas un peu, assez proche.
C'était un
ami, c'est un professeur. Si je peux parler musique classique, c'est grâce à lui.
C'est vrai ?
C'est lui qui m'a appris.
Il vous a tout appris ?
Pas tout, mais les bases.
Alors, c'est peut-être pour ça qu'on va commencer avec lui.
Je continue de jouer le piano, là, ça vous va derrière ?
Oui,
parce que c'est difficile de parler et jouer en même temps.
Vous êtes fort, vous y arrivez bien.
Oui, ça c'est la bonne chose avec l'âge, on apprend des choses.
D'ailleurs, on va pouvoir savoir ce que vous apprenez, comment vous composez, si c'est sur le piano, la guitare, tout à l'heure. Mais on va parler de Moondog. Comme lui, vous êtes un nomade. D'ailleurs, vous l'avez rencontré où ? Parce que lui, il a vécu, bien sûr, sur la 6e avenue, mais aussi en Allemagne. C'est en Allemagne, plutôt, vous l'avez ?
Non, je l'ai rencontré à Rennes, en Bretagne, pour Transmusical de Rennes, qui ont organisé...
Dans les années 80 ?
88, pour être précis. J'ai regardé avant que j'ai pris l'ascenseur pour venir chez vous. Et oui, il a joué un concert au Transmusical, qui était connu pour le punk New Wave dans le temps. Et on m'a dit, viens voir, il y a un concert classique. Et moi, punk, le classique, c'était tout ce que je voulais éviter dans ma musique. Et on m'a vraiment forcé de venir et c'était spectaculaire, c'était une vraie... On dit en France une claque. Plus qu'une claque. Il y a un avant Moondog et un après Moondog. Et en plus, il y a eu un scandale parce que le premier violoniste a arrêté de jouer parce qu'ils étaient filmés et trop lents. On est en France, il y a des règles de travail. Si on travaille trop...
Académique, c'est ça que vous voulez... Ah oui, non, par rapport au travail,
ils étaient filmés, le concert était filmé et le violoniste ne voulait pas qu'il continue de filmer. Il faut payer plus, ou un truc comme ça, qui était assez violent pour un compositeur qui parle seulement anglais et qui est aveugle, qui n'a rien compris. Et c'était vraiment un scandale. Dans un festival, normalement, il y a beaucoup de scandales dans les transmusicales dans le temps. Et là, c'était les musiciens classiques qui ont fait un scandale. Et j'ai apprécié ce moment, le modernisme du garçon... Et je l'ai rencontré après le concert, je suis allé manger avec lui. J'ai porté un DAT, c'est une espèce de machine à enregistrer des années 80.
Ancien,
mais qui était super moderne. Voilà. Seulement des journalistes très connus, oui, ont eu ça. Et je suis allé le voir avec ça, j'ai dit je suis journaliste suisse, je veux une interview. Et il a tout de suite remarqué que je suis un menteur et il adorait ça. Alors, et il m'a invité de manger et d'échanger, voilà.
Alors vous avez choisi pour parler de lui le portrait d'un monarque, le symphonique numéro 1, le thème principal, Stéphane Escher, donc Moondog, qui était un compositeur qui a aimé beaucoup la boucle, qui a vécu dans la rue, qui s'est inspiré du son de la ville. On va parler dans quelques instants, mais vous l'avez choisi pourquoi ce moment-là ? Le thème, parce
c'est que... le disque le plus connu où il a vraiment entré dans la musique. Il a eu la première fois.
Un disque de 69, hein. 1969.
Oui. Il a eu la première fois la possibilité de jouer avec un orchestre symphonique. Et on va parler peut-être d'un spectacle qui va se passer le 11.
Nuit Fouvière.
Et c'est un peu ce son qu'on essaye de recréer au spectacle.
Avec Raphaël Imbert qui sera au saxophone, grand saxophoniste de jazz. Dog, Stem, et puis là on est déjà sur le Stamping Ground puisque c'est un disque dont les titres s'enchaînent. C'est un disque de 1969. Pour parler avec vous, Stéphane Escher, de ce projet que vous avez là pour les Nuits de Fouvière, un hommage aux Vikings de la 6e Avenue, une création musicale. Vous serez bien entouré d'ailleurs, vous serez avec l'orchestre de l'Opéra de Lyon. Il y aura Dominique Ponty au piano, Stéphane Lakatos aux percussions et Raphaël Imbert au saxophone pour rendre hommage à ce Viking qui a inspiré beaucoup, beaucoup de musiciens, qui s'est inspiré lui-même de Charlie Parker. Les musiciens entre eux venaient le voir sur la 6e Avenue. Leonard Bernstein est venu lui rendre visite. Enfin, plein de musiciens de rock également. Mmh. Vous, quand vous l'avez rencontré, ça a été un choc à quel niveau? Ça s'est produit comment, Stéphane Escher?
J'étais en train de préparer un disque qui s'appelait My Place, où j'ai arrêté avec l'électronique. J'ai joué à Saint-Étienne. Un concert, le dernier concert de la tournée Silence, c'était mon succès Combien de temps, les plus âgés, qui était très électronique, c'était la musique purement électronique. Et j'ai eu l'idée de finir avec cette phase et ma musique s'était faite avec des anciens ordinateurs vraiment très très basiques, ça se faisait sur des disquettes, tous les sons étaient sur des disquettes, j'ai eu 4 disquettes, une pour l'ordinateur, un Commodore, un pour le sampler, un peu. Et après chaque chanson que j'ai finie, j'ai lancé la disquette dans la salle. Comme ça, je ne pouvais plus jamais retrouver tous les disquettes.
Donc la mémoire s'en va.
Voilà, la partition, ouais. Qui était assez poétique, assez. J'adorais le geste, mais après j'étais un peu emmerdé parce que
vous gardez tout.
J'ai dû recommencer quelque chose. Et j'ai commencé à écrire ces chansons pour My Place, où j'ai déjà travaillé avec Chilean Orphan. C'était un groupe anglais, camer folk, musique de chambre folk, qui m'ont fasciné en travaillant ensemble. Et après la rencontre avec Louis, moi j'appelle Moondog Louis.
Ouais,
désolé.
Pourquoi vous l'appelez? Oui, parce que.
Oui. Ouais. Pour moi c'est Louis. Louis Harden,
ouais,
Moondog.
C'était son nom.
Et à la rencontre, il m'a demandé, oui, tu es pas journaliste, j'ai compris, tu es quoi? J'ai dit, je suis musicien. Il a dit, envoie-moi une cassette, comme ça j'écoute, et peut-être j'ai une idée ou quelque chose, ça m'intéresse. Il était intéressé par moi. Et sur cette cassette, il y a une Skookiesparklied. C'est une vieille chant traditionnelle suisse, un des rares qui est en mineur.
Parce que vous êtes originaire de Suisse. Hein?
Oui, ça ne s'entend pas avec mon accent.
Un petit peu, un petit peu.
Et cette chanson Skookiesparklied, je l'ai fait aussi comme pour mettre un peu la déroute, mon public, parce que je viens du punk, faisais de l'électronique, et le prochain disque, il arrive avec du Kammerfolk et une chanson suisse. Et il a dit, ah, j'ai une idée d'arrangement pour ça. J'ai dit, ah, ça serait un très grand plaisir de travailler avec vous. Et on a commencé à enregistrer. J'ai perdu le fil. C'était quoi la question?
La question, c'est comment il vous a influencé, mais c'est pas grave,
voilà.
On a une heure.
Carrément. Merci beaucoup pour l'aide. C'était pendant ce disque, je savais pas où aller, cette rencontre. Et le disque, je l'ai fait avec un quatuor à cordes. Moondog qui fait les percussions. Danny Thompson, un bassiste. Il y a un groupe folk, Pentangle. J'ai totalement viré. Et si vous entendez Jeûner en paix aujourd'hui avec le Quatuor Accord, c'est cette école que j'ai fait avec Louis Harden. C'est lui qui m'a montré la musique classique.
Alors, on ne va pas tout de suite écouter votre travail, Stéphane Escher. On va d'abord passer par Martinov pour essayer de prendre des chemins éclairés par rapport à vos trajets musicaux. Alors là, on est dans la musique répétitive, du minimalisme, mais aussi la tradition orthodoxe qui se mêle à sa partition. On va écouter les Béatitudes, interprétées par les Sacred Spirit of Russia. Martinov qui nous fait pénétrer effectivement dans cette musique uniquement vocale et qui suit à peu près le même mouvement que celui emprunté déjà par Moondog. Enfin, c'est à peu près la même époque.
Thank you.
The Beatitudes de Vladimir Martynov pour chœur mixte a cappella. C'est Craig Hella Johnson qui a la direction du groupe musical Conspirare. C'est un disque sorti chez Harmonia Mundi en 2014. Stéphane Escher, pour poursuivre dans vos procédés musicaux, je crois que ça fait partie des points importants de votre vie, la découverte de ce morceau-là.
C'est quelque chose que j'écoute beaucoup. Quand je voyage, c'est ma musique de voyage et j'ai l'impression, sans grand effort, quand je l'écoutais, je suis un être humain un peu mieux après qu'avant. Je dois être un très bon être humain parce que je l'écoute énormément.
C'est pièce. Bien.
Voilà. Et puis ça me touche dans des endroits où il y a seulement la musique qui peut aller là-bas et chauffer ces endroits un peu froids, un peu sombres. Et
pourquoi que la musique ?
Je ne me posais pas cette question, parce que je fais de la musique, je suis très content que c'est seulement cette exclusivité, je ne sais pas. Peut-être que mes solutions sont tous un peu farfelues, mais ma solution, c'est que quand j'écoute la musique, mon cerveau doit écouter avec moi. Spécialement cette pièce-là, elle est vraiment très très intéressante. Ce qui se passe dans mon cerveau quand je l'écoute, à quelle odeur je suis, il y a une autre odeur, est-ce que je reste là? Ça veut dire mon cerveau arrête de penser. Il pense musical, il suit.
Il suit les chemins.
Oui, avec mes oreilles, comme marteau et tournevis. Mais après, c'est le cerveau qui travaille et il arrête de faire ses conneries, réfléchir. Voilà, et je trouve ça. Ça nous rend un peu plus humains à chaque fois qu'on écoute des pièces comme ça, spécialement.
Alors vous, je ne sais pas comment vous travaillez. En tout cas, on va maintenant écouter la bande originale du film Monsieur N, que vous avez en tout cas écrite, la partition. Vous avez écrit la partition.
Oui.
Et on va écouter ce Agnus Dei, qui est donc une partition normalement même sacrée, qui ouvre, qui est au début du film, je crois, avec un chœur corse.
Oui. Et Filetta qui chante merveilleusement.
On est dans le même genre de travail.
Sûrement, oui, tout va se ressembler. Hein. Je suis très limité comme musicien, même si au début vous avez raconté tous les l'éventail possible, mais ça reste très simple.
Ah,
Je fais toujours la même chose.
Ah, c'est pas sûr.
Écoutez,
en tout cas, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a effectivement une parenté avec ce qu'on vient d'entendre. Mais justement, vous allez nous éclairer pourquoi et comment vous travaillez avec la voix et comment vous écrivez, surtout Stéphane Escher.
Agnus Dei.
Agnus Dei du film Monsieur N, réalisé par Antoine de Caunes, avec le cœur d'homme de Sartène, c'est ça,
à Filetta.
Avec donc c'est une composition de vous, Stéphane Escher. Vous avez fait comment vous procédez, vous écrivez en fonction de l'image, vous écrivez quelques notes sur le piano et puis vous l'orchestrez après, comment ça se passe?
Cette histoire, j'ai étudié tout qui était autour de, parce que c'est l'histoire de Napoléon sur Sainte-Hélène, et j'ai étudié ce qui était écrit dans le temps, parce que c'était une superstar, Napoléon. Il y a eu des grands créatifs qui ont travaillé pour lui, par exemple Beethoven, qui, je crois, c'est la héroïque, je suis vraiment, j'ai quitté l'école à 16 ans, hein. Je peux me tromper sur tout ce que j'ai dit, l'héroïque qu'il a écrit au début pour Napoléon. Après il a retiré, je crois, il a appelé la, il a changé le nom. Et la partie du piano, à la fin, elle reprend la héroïque. Et quand j'ai trouvé ça, je me disais, même la tonalité, je crois que c'est mi avec un croix, je ne sais pas comment on appelle ça. Je ne sais pas lire les notes. Oui. Mi dièse.
Mi dièse, ah oui, voilà, avec le dièse.
Ah oui, oui.
Mais, vous ne savez pas lire les notes?
Non.
Vous faites tout d'oreille?
Oui, après avec un ordinateur. Ou le piano, je le joue, et puis quelques notes, ce que je joue. J'ai commencé à apprendre un peu. Maintenant, il y a cette sublime pièce, il y a cette sublime voix. Et puis, oui, je regarde pas la main. Je sais pas lire les notes et je sais pas jouer le piano. Je cache le piano sous que je le vois pas et je cherche les notes qui me semble être
comment
les bonnes.
Comment ça sonne bien pour vous, c'est
exactement,
ça?
Exactement, comme, ouais. C'est vraiment une composition, mais dans le sens plutôt d'un peintre qui, ah oui, ce bleu-là, il demande un noir en bas. Oui, c'est très, très, très visuel, comme ça. Et après, qu'on va dans le studio et ça prend, c'est assez incroyable. Il y a aussi une pièce que j'ai faite pour le film, que j'ai laissé jouer tout l'orchestre en une fois le plus fortissimo possible. Et on a même laissé tomber toutes les percussions. Et tout le monde tenait la note jusqu'il ne pouvait plus.
Ouais.
Et après, on a tourné la bande. Et ça donnait, ces 3 minutes, un crescendo qui commence du rien et au plus grand fortissimo.
Tourner la bande, ça veut dire que vous l'avez
pris dans le temps, j'ai enregistré sur une bande.
Une bande magnétique.
Une bande, vous pouvez la tourner. Ouais. Ça veut dire que ça fait plaf.
Et à l'envers.
Et quand vous tournez, ça fait... Et c'est là que l'acteur qui jouait le criminaliste, il a trouvé comment Napoléon est parti.
Donc en fait, c'est assez plastique ce que vous faites.
Absolument.
Vous avez dit classique ? Elsa Boublil, sur France Inter.
Stéphane Escher, alors vous... composé de manière plastique,
oui.
Mais vous écrivez aussi des chansons, on vous entend chanter, on va pouvoir le faire avec
le
disque.
Je dois chanter là? Je dois chanter?
Ah bah si vous voulez.
Non.
Ah,
non,
quel
non,
dommage.
Je parle.
On va écouter L'Envolée, on va écouter
carrément.
Dans ton dos, oui, parce que c'est intéressant aussi d'essayer de comprendre comment vous travaillez avec le texte, parce que visiblement, choisir de chanter des textes d'un auteur, ça, c'est une démarche particulière.
C'est facilité parce que j'écris avec Philippe Jean, il n'y a pas une plume qui est beaucoup mieux que lui. Et il adore les chansons et il... Oui, c'est la facilité. Je prends le meilleur.
Et la facilité, c'est de chanter aussi, Stéphane Escher, parce que vous n'arrêtez pas de
dire... En français, c'est difficile, oui. En français, c'est très difficile. Mais moi, j'aime bien utiliser des... C'est abstrait. Même quand je parle, je m'écoute en parlant, je dis, mais de quoi il parle celui-là?
Parce que ce n'est pas votre langue
maternelle. Ce n'est pas du tout ma langue maternelle, c'est un mélange entre le bernois et un langage de l'Est. Et après, à l'école, j'ai appris l'allemand. Moi, je lis les livres. Quand je dois vraiment comprendre, je dois lire en allemand ou en anglais. Ouais.
Donc, quand vous chantez, c'est un tableau abstrait, Stéphane Escher?
Oui, c'est un Jackson Pollock.
On vous écoute donc dans Ton dos, extrait de l'album L'Envolée.
Quelle que soit l'heure, quelle que soit la distance, je pense à toi, je t'évoque en silence, et je m'étire, je laisserai tout tomber, tout bien peser, tout bien considérer, tout bien considérer. Je n'ai besoin ni envie d'autre chose. Moi qui croyais qu'une vie ne suffit pas pour tout goûter, tu dois bien rire de moi. Je surgirai là dans ton dos, je renierai tout ce que j'ai trouvé beau, mais qui était vide, mais qui était faux, mais qui était faux. Quand tout s'éclaire, quand tout devient facile dans la forêt, un arbre s'illumine et tout le reste ne pourra plus compter. On se sent bien, on se sent plus léger, on se sent plus léger. Je n'ai besoin ni envie d'autre chose, moi qui croyais qu'une vie ne suffit pas pour tout goûter. Tu dois bien rire de moi. Je surgirai là dans ton dos, je relirai tout ce que j'ai trouvé beau, mais qui était vie, mais qui était m'attends quelque part, ne t'inquiète plus et pardonne mon retard. On a toujours certaines difficultés avec les rêves et la réalité. Je surgirai là dans ton dos, je renierai tout ce que j'ai trouvé beau, mais qui était vie, mais qui était vie.
Dans ton dos, Stéphane Echer, qui chantait cette chanson, ce poème, j'allais dire presque, Stéphane Echer de Philippe Dian.
Oui.
Et alors justement, ça nous mène tout droit vers les leaders, parce que vous, dans vos choix musicaux pour l'émission d'aujourd'hui, vous avez évoqué plusieurs leaders de Schumann, aussi un lead de Schubert.
Oui.
On va écouter un lead de Schumann, les Dichterliebe,
ça c'est osé.
Poèmes d'amour. Ouais. Et je me demandais s'il n'y avait pas un lien dans votre façon d'interpréter. Vous disiez tout à l'heure, c'est abstrait, c'est pas ma langue, finalement, le français, ça, on se rapprochait pas de justement des leaders comme ça où il y a de la véritable poésie et des musiques qui mettent en valeur, qui essayent de souligner la valeur poétique des mots.
Oh là là, c'est trop de thèmes qui se ouvrent dans ma tête, basé sur votre phrase. Ce qui est vraiment triste de ce que je dois faire aujourd'hui avec tous mes compatriotes musiciens qui rêvent d'avoir un public, d'être joué à la radio, d'avoir un public qui vient au concert. C'est quand même extrêmement... Le corset qu'on s'est fabriqué nous-mêmes, en plus, c'est quelque chose qu'on a fabriqué nous-mêmes. Les frontières, le prison est devenu si ridiculement petit que dans des leaders, précisément de Schumann... Je ne sais pas si on joue les deux, mais j'ai choisi presque le premier et le dernier.
In wunderschönen Mai.
Ok, ça c'est le premier. Le dernier encore plus osé parce que c'est la même chose, mais dans un autre tempo, dans un autre. Et si on écoute ça maintenant, oui. J'aimais bien écouter la chanson comme on a entendu, spécialement le texte. L'arbre qui s'illumine, toutes ces images qui me font froid dans le dos chaque fois que je le chante et quand je l'entends. Quand même, Schubert ou Schumann, ils ont eu des libertés qu'on nous on a vraiment pas perdu, on les a vendues trop facilement. Et pour mon travail futur, j'essaie bien de les regagner, ces libertés.
De
la structure, qu'est-ce qu'on a à foutre dans un refrain, pourquoi un solo, pourquoi... Vous voyez ce que je veux dire, que couplet, refrain, on entend ça toute la journée à la radio. De rebriser, se libérer un peu, je tente ça.
Alors peut-être rejoindre le travail de Schumann qui s'est inspiré, donc qui a écrit sur des poèmes carrément de Heinrich Heine.
Heine qui habite à Paris.
Et qui donc interprète, on peut écouter Fritz Wunderlich qui est aussi un interprète que vous avez choisi.
J'ai écouté sur internet naturellement, on fait ça, on a la chance, c'est la seule, le streaming ça m'énerve un peu, mais la possibilité d'écouter toutes les interprétations, j'ai choisi lui.
Pourquoi ?
Je préférais son interprétation. C'est une réponse très, très intelligente.
Un interprète qui n'a enregistré que pendant 13 années, puisqu'il est mort très jeune, effectivement, qui fait partie des interprètes les plus purs et les plus efficaces.
Je ne savais pas ça. Tout ça, je ne savais pas.
Et ben voilà.
C'est mon préféré que j'ai écouté.
Schönen Monat Mai, als alle Knospen sprangen, da ist in meinem Herzen die Liebe aufgegangen. Schönen Monat Mai, als alle Vögel sangen, da hab ich ihr gestanden, mein Sehnen und Verlangen.
Schönen Monat Mai, il est difficile de parler derrière ce lied de Schumann qui est extrait des Dichter Liebe, des poèmes d'amour, c'est ça, poète
non,
d'amour.
Non, c'est pas seulement d'amour, c'est la dernière est très très méchant comme texte, il essaye d'enterrer toutes les mauvaises choses qu'il a fait dans sa vie.
Donc Heine.
Heine, ouais. Qui habite à Paris. Je le visite beaucoup. Ouais.
C'est vrai, vous...
Oui, c'est près de l'hôtel Terrasse où j'ai dormi de temps en temps. Il y a un cimetière.
Et vous allez lui rendre visite
Oui, Anne. Okay. Denk ich an Deutschland in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht.
Là, vous citez, hein,
oui.
Anne.
Oui. Si je pense en Allemagne dans la nuit, je ne peux pas dormir.
France Inter. Vous avez dit classique. Elsa Boublil.
Alors Stéphane Echard, maintenant que je sais que vous n'écrivez pas de partition, que vous ne savez pas écrire la musique ni la lire, je comprends mieux pourquoi les œuvres comme celle de Moondog ou Arvo Pärt qu'on va écouter maintenant vous inspirent. On va écouter...
Il n'y a pas beaucoup de notes à retenir.
Non, c'est pas ça. C'est que ce sont des œuvres qui sont beaucoup bâties sur la répétition, la façon, le cycle qui se répète, qui se distord. Et là, on va écouter Spiegel im Spiegel.
On va faire ça.
Oui.
À... 16h39, mardi, un après-midi à Paris, il pleut.
Oui.
On va faire ça?
Oui.
Je vous adore.
C'est vrai? Pourquoi?
De oser ça.
Ah ben écoutez, tant mieux. Et on va l'écouter interpréter au violon parce que justement...
Non,
ça vous
je vous déteste.
Vous
moi. Non, pas de... Je connais par violon, oui, avec plaisir. Ça manque un peu de violon
voilà,
ici.
Voilà, ça nous permet de parler de votre père aussi, donc, qui était violoniste. Et j'imagine que donc, c'est une tradition orale. C'est comme, vous avez lui aussi joué de manière à l'oreille, comme vous?
Il savait un peu lire parce qu'il a joué à l'orchestre de cour, un peu. Mais ce n'était pas très respectué dans la famille. Quelqu'un qui sait lire les notes... C'est un lâche.
Donc c'est mieux comme vous.
Mon père, c'était un peu un lâche. Mon grand-père m'a dit.
Donc vous avez préféré ne pas apprendre les notes écrites, en tout cas, Stéphane Echard.
Oui, et maintenant je suis forcé de le faire. Parce que j'ai fait des travaux récemment où il faut que je C'est un peu plus structuré, oui.
Est-ce que vous pouvez nous dire, justement, on va écouter une œuvre très structurée, vous m'avez dit que vous m'adoriez, mais pourquoi alors, Stéphane Escher? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce qu'on va écouter, Spiegel in Spiegel?
Il y a la pureté d'Arvo Pärt m'a toujours fasciné. Aussi, en interview, on a posé la question sur le mysticisme, sur l'expression artistique. Et il a dit non. Moi, j'aime bien un ré qui était bien joué. Oui, et après? Non, mais il faut qu'il ait bien joué le ré. Et, ouais, c'est encore une musique qu'on l'écoute et on est un être humain un petit peu mieux après. Ça peut s'abîmer tout de suite après si on regarde le téléjournal, par exemple. Mais ce petit moment, c'est cette simplicité qui, de nouveau, illumine ce trou noir que chacun porte en soi et que la musique peut aller là-bas de faire une petite lumière.
Thank you.
Spiegel im Spiegel d'Arvo Pärt, c'est donc un morceau qui se regarde dans le miroir, violon et piano. Effectivement, vous le disiez très joliment, Stéphane Escher, en écoutant ce morceau, finalement, c'est du minimalisme. Les notes arrivent au moment où on n'y pense plus, d'une certaine manière.
Spécialement la basse, là, chaque fois qu'on a commencé à oublier, il nous... Ah voilà, là, il aurait dû le faire, il ne le fait pas. J'adore ça.
Et par rapport à cette noirceur qui est la nôtre, vous disiez que c'est la musique, finalement, est le seul vecteur par lequel...
Je pense, oui. Aujourd'hui, je pense carrément.
Vous pensez quoi ?
Je pense que la musique, c'est le seul... Mais c'est une blague que je raconte. Je touche seulement encore une partie. Expliquez ça aux téléspectateurs.
Oui, alors c'est le plexus solaire.
Plexus solaire. Sous le plexus solaire, il y a un trou noir chez chaque être humain qui nous bouffe. Et il faut la nourrir avec un peu de lumière. Et je pense que c'est la musique qui fait ça. C'est tout petit, hein. C'est même pas la taille d'une aiguille.
Vous voulez dire que pour vous...
C'est pour tout le monde, j'ai décidé.
Ah, c'est
même pour vous aussi,
d'accord.
Pour tout le monde qui écoute. Tout le monde a une espèce de vie. Non, mais ça arrive que vous êtes là, tout seul, à bord de la route. Vous avez une mélancolie, vous dites, mais pourquoi je suis comme ça? Et il y a ce vide de... Et je pense qu'il est rempli par la musique, meilleur que du cinéma ou des informations ou de la radio même. Mais la musique, même.
Plus que quelque chose qui pourrait frapper les yeux.
Absolument, oui. Et il faut faire attention parce que la musique a aussi une violence, parce qu'on ne peut pas seulement faire du bien avec ça. Comme elle est utilisée dans les pubs, comme elle est utilisée au cinéma, est-ce que c'est toujours respectueux? Ça entre direct dans le subconscious,
l'inconscient.
Tout de suite. TGV sans grève, direct. Et on peut aussi abîmer des choses. Voilà. Mais ce qu'on écoute là, pas peur, ça vous fait du bien.
Alors Stéphane Escher, ça nous permet d'aller directement sur le prochain morceau où visiblement Max Richter, qui a retranscrit les quatre saisons de Vivaldi, justement en parlant de cette façon de s'imprégner de la musique, lui, il a écouté les quatre saisons au point de pouvoir se le dire dans la tête autrement, puisqu'on parlait du fait de ne pas forcément avoir besoin d'écrire la musique. On dirait que le travail qu'il a fait, c'était de nous faire entendre comment dans sa tête il était capable de faire chanter autrement les quatre saisons de Vivaldi, tout en y restant très fidèle.
Et pour revenir au début de notre discussion, entre Richter et Vivaldi, il y a eu Moondog. Et je pense que l'idée musicale de Moondog amène quelqu'un comme Richter pour prendre la pièce de Vivaldi et le mettre... enlever les virgules, je pense, ce qu'il a fait, il a enlevé les virgules, les points et les points d'interrogation. Il a densifié. Et je connaissais moins la pièce parce que j'ai lu un article dessus et j'ai détesté sans l'entendre. J'ai dit, mais quelle connerie.
Vous trouviez que c'était prétentieux?
On ne fait pas ça. Voilà. C'est comme moi, une fois, j'ai fini un herbier de Jean-Jacques Rousseau qu'il a commencé, qu'il n'a jamais fini. Et je ne connais pas les herbiers, j'ai dû apprendre. Et j'ai dit, je vais le finir. Cette arrogance, j'aime bien chez les artistes de temps en temps. Et j'étais séduit par Richter de dire, je réécris la quatrième saison.
Vous trouviez ça arrogant et à la fois ça vous a séduit.
J'aime bien des gens qui... Quand les gens disent mais c'est impossible, pour qui il se prend, j'aime bien ces moments-là.
Et vous avez été conquis.
Et comme moi j'ai fini le herbier de Rousseau, de l'île de Saint-Pierre, il a fait et que je l'écoutais, je dis oh, c'est exactement tout ce que j'aimerais bien exprimer dans ma musique, ce qu'il fait.
Thank you.
Merci beaucoup.
C'est vrai,
Stéphane
Scher.
Vous me faites ce plaisir d'écouter toutes ces musiques.
C'est vrai, ça vous plaît. Et là, vous disiez que ça vous rendait heureux carrément d'écouter ça.
Ouais, ça m'a. Je peux pas résister d'être heureux.
C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, ça nous permet aussi de dire que vous serez bientôt donc aux Nuits de Fourvière, donc à Lyon.
Oui.
Les Nuits de Fourvière qui commencent le 1er juin avec un concert de Radiohead. Donc c'est une édition encore comme chaque année très surprenante, très ouverte. Et vous, aux Nuits de Fourvière, vous rendrez hommage aux Vikings de la 6e avenue, Moondog. Mm-hmm. On le disait en début d'émission que vous avez bien connu. Est-ce qu'il est encore présent en vous, quand vous continuez
le
de composer.
Le choix de toutes ces pièces, sans lui, j'aurais jamais commencé à écouter de la musique classique. Déjà, sans lui, on ne serait pas ensemble aujourd'hui.
On ne serait pas en train de discuter. Ben alors, merci à Moondog. Samedi 11 juin à 21h au Grand Théâtre, aux Nuits de Fourvière, vous serez très bien accompagné par l'Orchestre National de l'Opéra de Lyon, et puis par Tony Lakatos et Raphaël Imbert, et puis Stéphane Lakatos, pardon, aux percussions, et Dominique Ponty au piano. On vous souhaite un très beau concert, Stéphane Scher.
Je me réjouis d'aller. Après, je suis un peu stressé parce que je ne sais pas lire les notes. Il faut que je l'apprends par cœur.
D'ici le 11 juin,
ça va être compliqué. Non, je l'ai déjà chanté, ces chansons.
En fait, vous faites tout de mémoire auditive, alors, du coup.
Oui.
Tout est dans votre tête.
Oui.
Pas mal. Je vais vous proposer quelque chose qui devrait vous plaire dans quelques instants.
France Inter. Vous avez dit classique. Elsa Boublil.
Alors, je vous crois tout à fait capable de faire cela. Stéphane Scher, aller chez quelqu'un avec votre guitare, pourquoi pas, ou avec votre voix. Alors là, c'est le saxophoniste Christophe Panzani qui est allé chez des amis pianistes. Mm-hmm. Il est allé avec son saxophone et il a dit, voilà, bah, on improvise. Qu'est-ce que t'en penses? On improvise. Alors, le disque s'appelle Les âmes perdues. Et c'est la rencontre entre deux musiciens qui improvisent vraiment. Je vous propose le titre Endless Wars avec le pianiste Leonardo Montana. C'est juste pur. Ça met de la joie, normalement. J'espère que ça vous en mettra. En tout cas, c'est pour que la guerre cesse. Ça a l'air d'aller dans le sens de votre recherche musicale pour faire du bien, tout simplement.
Absolument.
Thank you.
C'est donc le saxophoniste ténor Christophe Panzani avec le pianiste Leonardo Montana. L'album s'appelle Les âmes perdues et il sort chez Jazz and People le 13 juin. Ça vous a plu, Stéphane Hichère?
Oui, beaucoup.
Ça vous a mis un peu de gaieté, vous qui cherchez de la gaieté?
Non, je suis super mélancolique maintenant.
Mais justement, ah mince, c'est raté.
Bon, ben non, ça va.
Ça va?
Non, c'est joli, c'est très Keith Jarrett.
Ouais, il y a quelque chose de qui se gérette, en effet. Donc, on vous retrouve aux Nuits de Fourvière le 11 juin à 21h au Grand Théâtre à Lyon.
Oui, avec un plaisir non dissimulé.
Oui, ben, on aimerait bien être là, tiens, d'ailleurs. À très bientôt, Stéphane
Hichère. Merci pour cette invitation.
Avec plaisir.
Et on est arrivé.
On est arrivé,
après
on a réussi.
Tous ces mois.
C'est fou.
D'essayer.
Oui, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on essayait de vous inviter et de venir d'ailleurs.
J'ai dit que je viens,
Et vous êtes là. Merci beaucoup.
Ok, à merci bientôt. À vous pour cette émission. C'était très charmant.
Merci. Alors merci à Marianne Rimbaud, Camille Poux Jalaguélé, Claire Destacan, Alexandra Ramos da Silva et surtout un immense merci à Benjamin de la Gâtinais qui faisait sa dernière émission avec nous aujourd'hui. Il nous quitte.
Il va vivre
de nouvelles aventures et c'est quelqu'un avec qui on travaille depuis plus de 15 ans.
C'est
donc
pourquoi
merci,
je suis mélancolique,
Benjamin.
Peut-être que j'ai senti ça à travers la vitre.
Vous avez vraiment un don de recevoir les choses. Ne pleurez pas. À bientôt et demain nous recevrons Valeria Bruni-Tedeschi. Vous pouvez bien sûr podcaster l'émission puisqu'elle a été soigneusement réalisée par Benjamin de la Gâtinais.
Non, il n'a rien à foutre parce qu'il se casse. Il n'a rien enregistré aujourd'hui.